Et le journal est présenté par Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Mieux former les enseignants et répondre à la crise de leur recrutement. Emmanuel Macron dévoile une nouvelle réforme de leur formation à partir de l'année prochaine. Un changement de pied qui ne convainc pas les syndicats. Comment endiguer la vague de violence aux abords des établissements scolaires? L'adolescent de 15 ans agressé hier à la sortie de son collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne est mort cet après-midi. Une enquête a été ouverte, des chefs d'assassinat et de violence en réunion et les responsables politiques de tous bords dénoncent ce déchaînement de violence. Quels établissements vont être concernés par les coupes budgétaires dans la culture? Après l'annonce d'une baisse de 204 millions d'euros de crédit pour l'année 2024, eh bien ce sont les grandes institutions parisiennes qui vont être particulièrement mises à contribution, nous le verrons. Et puis face à l'émoi et à la pression de la communauté internationale, Israël reconnaît une grave erreur dans la frappe ayant tué 7 travailleurs humanitaires et promet d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza, alors que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU exige dans une résolution l'arrêt de toute vente d'armes à l'État hébreu. Enfin, nous serons en Estonie pour le dossier de la rédaction dans le cadre de notre journée spéciale consacrée aux pays baltes. À 2 mois des élections européennes, eh bien nous verrons que de plus en plus de civils s'impliquent dans la cyberdéfense de leur pays. Comment résoudre la crise du recrutement des enseignants en changeant leur formation, répond Emmanuel Macron. Le chef de l'État en déplacement dans une école du 9e arrondissement de Paris aujourd'hui annonce la mise en place à partir de l'année prochaine d'une nouvelle licence spécifique de préparation au professorat des écoles avec un concours avancé à Bac plus 3 plutôt qu'à Bac plus 5. Bonsoir Azaïs Perronin.
Bonsoir.
Alors l'ambition de l'exécutif, eh bien, c'est de mieux former, mieux préparer les aspirants enseignants.
Oui, cette nouvelle licence appelée licence préparatoire au professorat des écoles se veut plus professionnalisante pour mieux former les futurs professeurs à la pédagogie. L'objectif fixé par le gouvernement est qu'environ 80% des enseignants soient issus de cette licence. Les 20% restants auraient rejoint la formation via des passerelles. Avec cette formation, les étudiants seront donc plus proches du terrain. En licence, puis en master après le concours, une large part de l'apprentissage sera dédiée à la prise en main progressive de la classe, en commençant par des stages d'observation, puis en poursuivant avec de la pratique accompagnée et enfin avec une mise en responsabilité allant jusqu'à 50% du temps. Après la licence, ces étudiants de terrain seront rémunérés à hauteur de 1400 euros net en Master 1 et 1800 euros net en Master 2. Pour le Syndicat National des Écoles, professionnaliser davantage les enseignants est une bonne idée. En revanche, cette licence risque d'une part de bloquer des étudiants qui voudraient se reconvertir et d'autre part de dégrader la profession, s'inquiète le vice-président du syndicat, Laurent Hoffmann.
Un étudiant qui va s'engager, il peut avoir perdu 3 ans, quoi, finalement, s'il veut changer finalement d'orientation professionnelle. Donc on se dit, est-ce que c'est pas une façon, finalement, de recueillir des étudiants qui seront un peu coincés là-dedans et qui pourront pas faire autre chose? En tout cas, c'est un écueil. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que, finalement, c'est en bac plus 3 qu'on les recrute, et non plus à bac plus 5. Le concours, il est avancé. On se dit, est-ce que c'est pas aussi une façon, finalement, d'enterrer une fois pour toutes le problème de la revalorisation des profs? Et de se dire, finalement, à Bac plus 3, ils vont pas les réclamer plus, puisque ils n'ont plus le master, comme avant, au moment du concours.
Ce nouveau concours, après Bac plus 3, aura lieu à la fin du printemps 2025. Il faudra aussi attendre l'année prochaine pour que ces nouvelles licences voient le jour dans chaque académie. En attendant, prévient l'Élysée, de premiers modules complémentaires ouvriront à l'université pour préparer le concours.
Azaïs Perronin, une école qui doit rester un sanctuaire face à toute forme de violence désinhibée chez nos adolescents, appelle le chef de l'État. 3 jours après l'agression d'une adolescente de 13 ans devant son collège de Montpellier et au lendemain de l'agression d'un autre adolescent de 15 ans, roué de coups hier à la sortie de son collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne. L'adolescent est décédé cet après-midi des suites de ses blessures. L'enquête est désormais ouverte. Des chefs d'assassinat et de violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire, indique le procureur de la République d'Evry. Et ce drame, dont on sait encore finalement très peu de choses, provoque déjà de nombreuses réactions et une mobilisation politique, Rosalie Lafarge.
La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a passé 1 heure dans le collège concerné cet après-midi, se disant ensuite profondément bouleversée par la mort de cet adolescent, bouleversée aussi le maire de Viry-Châtillon.
C'est un drame absolu. Les enseignants, ils sont par terre, ses copains aussi, puis nous aussi.
L'élu centriste Jean-Marie Villain a eu du mal à retenir ses larmes et ses premières interrogations.
On n'a pas le droit de baisser les bras non plus, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Il faut apprendre aux enfants que oui, il y a le bien, puis il y a le mal. Et puis le mal, on n'a pas le droit de le faire. Et surtout quand on le fait, on est puni. Donc il va falloir peut-être nous réapprendre à nous, à vraiment punir. à être ferme aussi.
On ne connaît pour l'instant ni les agresseurs ni leur éventuel mobile. Il y a en Essonne un phénomène de rixe entre bandes rivales, explique la préfète du département, sans pouvoir dire à ce stade si ce qui s'est passé hier relève de cela. La barbarie frappe chaque jour et dans l'impunité, dénonce ORN Jordan Bardella. Combien de victimes avant d'agir ? Questionne le président des LR Éric Ciotti. Emmanuel Macron, lui, a évoqué ce drame un peu plus tôt dans la journée, avant qu'on apprenne la mort de l'adolescent.
Je crois qu'il ne faut pas être aveugle sur ce qui se passe. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Alors il faut protéger l'école de ça, mais la question c'est comment on le prévient beaucoup mieux.
Et le chef de l'État rappelle ses pistes de travail déjà annoncées, un meilleur accompagnement des familles en difficulté, leur responsabilisation aussi, un système de préalerte pour proposer d'éloigner les jeunes violents de leur lieu de vie, et puis le renforcement des réponses prépénales et pénales.
Rosalie Lafarge, c'est une affaire extrêmement rare qui secoue la justice dans le Lot et Garonne. Une magistrate d'Agen est actuellement déférée devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Le parquet de Nice qui a retenu pas moins de 11 chefs à son encontre, notamment pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. Parquet qui a également requis son placement en détention. Hélène Gerhardt, actuellement poste à la cour d'appel d'Agen, est soupçonnée d'avoir entretenu des liens avec un membre présumé du banditisme corse lorsqu'elle était juge à Ajaccio entre 2010 et 2016. Elle est au cœur de leur récente mobilisation, la question des revenus des agriculteurs. Elle est revenue hier sur les bancs de l'Assemblée nationale. Malgré l'opposition de la majorité présidentielle, une proposition de loi écologiste a été adoptée en première lecture. Alors s'il a peu de chances d'être examinée au Sénat, elle ambitionne de mettre en place des prix planchers pour les agriculteurs, Catherine Pétillon.
Pour garantir un revenu digne aux agriculteurs, la proposition prévoit un prix minimal d'achat fixé par une conférence publique dans les filières qui le souhaitent ou sur décision du gouvernement en cas de désaccord. Les prix, ainsi déterminés, devront permettre de rémunérer les agriculteurs à hauteur de 2 fois le SMIC, un prix minimal pouvant être revu tous les 4 mois. À l'automne dernier, la France Insoumise avait déjà déposé une proposition de loi sur ce thème, texte finalement rejeté à l'Assemblée. Cette fois, les députés ont adopté la proposition écologiste sous les critiques d'Agnès Pannier-Runacher. La ministre déléguée à l'agriculture dit partager l'ambition de départ, permettre aux agriculteurs de disposer d'un revenu suffisant, mais pas les solutions qu'elle juge inopérantes. La ministre appelle à un règlement par filière. Tous les débats récents autour des lois Egalim, destinées à répartir la valeur entre distributeurs, industriels et agriculteurs, ont pourtant montré l'inégalité des rapports de force entre les acteurs. De son côté, la Confédération paysanne déplore l'absence d'avancée du gouvernement sur le sujet. Pourtant, l'instauration de prix planchers était une annonce d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, au cœur de la crise agricole. Depuis, l'exécutif renvoie à une mission confiée à 2 parlementaires chargés d'un rapport d'ici l'été, rapport qui doit servir de préalable à une nouvelle loi Egalim. Celle-ci ne devrait donc pas voir le jour avant plusieurs mois, alors que de nombreux agriculteurs sont aujourd'hui en grande difficulté.
Des difficultés qui nourrissent donc le mal-être agricole. Dans une note envoyée la semaine dernière aux préfectures, les services de l'État redoutent d'ailleurs de nouvelles vagues de suicides dans le secteur. Pour la présidente de Solidarité Paysan, Marie-André Besson, association qui accompagne les agriculteurs en difficulté depuis 30 ans, eh bien il faut des réponses structurelles et urgentes.
Nous, on constate une forte augmentation des appels depuis le début de l'année. Donc c'est bien la preuve qu'il y a bien une crise profonde du monde agricole. Et le propre de Solidarité Paysan, c'est d'accompagner les gens face à une situation globale, c'est-à-dire à prendre en compte autant les situations économiques, techniques, familiale, sociale et psychosociale des personnes. Certes, il faut se poser la question des suicides et y répondre et les éviter parce que c'est dramatique de voir que des gens en arrivent jusque-là. Mais il faut aussi avoir le courage de s'attaquer aux causes qui sont liées au mode de développement actuel, qui crée une surcharge de travail, un endettement pas possible, du stress, la charge administrative qui est énorme. Aujourd'hui, les paysans, ils ne trouvent plus du sens à leur travail. Ça veut dire qu'ils se lèvent tous les matins pour bosser 10 heures, 15 heures par jour, pour n'avoir pas de revenus au bout. Et ce dont on a besoin, ce sont des mesures à long terme, et notamment des mesures pour permettre aux paysans d'avoir un revenu, de vivre décemment de leur travail. C'est bien de se dire qu'il y a des risques de suicide, mais si on ne fait rien pour changer le fait, ça ne sert à rien de s'alarmer.
Marie-André Besson, présidente de l'association Solidarité Paysan, elle répondait à Catherine Pétillon. Les grands établissements culturels au régime sec. Après le coup de rabot global d'un peu plus de 200 millions d'euros pour le ministère de la Culture annoncé par Matignon et Bercy fin février, on connaît désormais le détail de ces coupes historiques pour tenir les ambitions budgétaires du gouvernement avec une croissance en berne. Détail révélé hier par la rue de Valois. Et Éric Chavroux, ce sont les grands établissements parisiens qui vont être les plus touchés.
C'est essentiellement dans la capitale que les grandes institutions vont devoir se serrer la ceinture. À commencer par l'Opéra de Paris, qui voit sa subvention réduite de 6 millions d'euros, lui qui se réjouissait il y a quelques jours à peine d'être redevenu bénéficiaire pour la première fois depuis 2017, son directeur soulignant que cette performance ne pourrait pas se reproduire tous les ans. La Comédie Française devrait, elle, se passer de 5 millions d'euros et son administrateur, Éric Ruff, dénonce dans Le Monde une politique budgétaire court-termiste et demande si la norme est désormais la fragilisation du théâtre. Un représentant CFDT d'évoquer un coup de serpe qui provoquera, je cite, « moins de création, moins de levée de rideau, donc moins de public et aussi moins de mécénat ». Pour le musée du Louvre, c'est 3 millions d'euros de perdus, 1 million pour l'Académie de France à Rome et pour Sèvres Mobilier National et 500 000 euros de moins au détriment du Théâtre National de la Colline comme du Théâtre National de Chaillot, sans oublier à un plus faible niveau d'autres lieux affaiblis comme la Philharmonie. Le ministère de la Culture va aussi abondamment puiser dans sa réserve de précaution et enclencher des redéploiements de crédits entre différents programmes. Pas de conséquences, en revanche, pour le controversé Pass Culture que Rachida Dati a récemment annoncé réformer pour le lier au MJC, la ministre qui tient son engagement dans ses arbitrages financiers de ne pas enlever un euro au spectacle vivant en région.
Israël admet une série d'erreurs graves après la mort de 7 humanitaires dans l'une de ses frappes lundi dernier. Sous pression internationale, le gouvernement israélien reconnaît donc la responsabilité de son armée, qui affirme avoir voulu viser un homme armé du Hamas. Deux officiers impliqués dans cette frappe ont été limogés au terme d'une enquête interne et express. Christian Chenot.
Il est très rare que l'état-major israélien prenne une telle décision de limoger des militaires en opération. Une décision qui plus est extrêmement rapide, signe que la pression est énorme. L'enquête israélienne pointe du doigt une erreur d'identification des cibles. Les opérateurs de drones et leurs supérieurs pensaient frapper des miliciens du Hamas. Une erreur d'appréciation qui a entraîné une mauvaise décision. L'état-major évoque en outre des violations de procédures opérationnelles applicables dans ce type de situation. L'armée admet aussi une faille dans le système de communication car elle confirme que l'ONG World Central Kitchen lui avait bien transmis à l'avance le plan de déplacement de son convoi composé de 3 véhicules, mais les militaires chargés des frappes ne les avaient pas reçus. Au final, l'état-major israélien réfute la thèse d'une frappe intentionnelle des humanitaires. Mais la célérité de l'enquête, puis des sanctions, montrent que les autorités israéliennes ont compris que ce drame écornait très sérieusement l'image que veut donner Israël d'une armée professionnelle à la morale irréprochable. Sauf que les 3 véhicules ciblés étaient parfaitement identifiables avec des logos sur leur toit. Et puis, une sanction interne, certes sévère, n'a pas de valeur juridique dans un conflit armé d'une telle intensité. Et puis surtout, Israël ne peut être juge et partie dans une telle bavure. C'est pour cette raison que l'ONG World Central Kitchen réclame une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques. L'ONG indique par ailleurs que la vidéo présentée par l'armée israélienne ne montre aucune raison de tirer sur le convoi qui ne représentait pas de menace.
Christian Chenot. Alors Israël sous pression, on le disait particulièrement après les menaces de Joe Biden hier soir de conditionner l'aide américaine à des mesures tangibles face à la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. Et bien le cabinet de sécurité israélien a donc approuvé aujourd'hui des mesures immédiates pour augmenter l'aide humanitaire à la population civile à Gaza avec un acheminement temporaire par le port israélien d'Ashdod et le point de passage d'Erez entre Gaza et le sud d'Israël. Des mesures éparpillées qui ne sont pas suffisantes, estime le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Plus tôt dans la journée, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a de son côté exigé l'arrêt de toute vente d'armes à Israël. C'est la première décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU depuis le début de la guerre à Gaza. La résolution adoptée à une large majorité ne changera pas la face du conflit, mais elle contribue à isoler un peu plus Israël sur la scène internationale, Jérémy Lanche.
28 voix pour, 6 contre et 13 abstentions, dont la France. L'adoption du texte porté par les pays de l'Organisation de la coopération islamique n'est pas une surprise en soi. Le Conseil des droits de l'homme a toujours été très actif sur la question palestinienne, trop au goût de Tel Aviv qui dénonce régulièrement les travaux de l'instance. Voter pour empêcher l'envoi d'armes à Israël, c'est voter pour le Hamas, a dit la représentante israélienne. Mais l'ampleur des destructions à Gaza est telle que peu de pays ont finalement osé voter contre le texte. Il accuse l'armée israélienne d'employer des armes explosives à large rayon d'action, c'est-à-dire sans considération pour la vie des civils. Sauf que les résolutions du Conseil des droits de l'homme ne sont pas contraignantes. Il y a donc peu de chances que l'armée israélienne soit à court de munitions demain, surtout que les États-Unis ont voté contre le texte. Mais il pourrait inciter d'autres pays, européens notamment, à suspendre leur vente d'armes, comme l'Italie, troisième fournisseur d'Israël, l'a déjà fait.
Jérémy Lange à Genève pour France Culture. À noter qu'une initiative similaire d'une centaine de parlementaires français de gauche ont demandé la même chose par courrier à Emmanuel Macron ce matin. Suite de notre journée spéciale consacrée aux pays baltes sur France Culture à 2 mois des élections européennes. Et ce soir, on parle de l'implication des civils dans la défense de leur pays. En Estonie, ils sont plus de 30 000 volontaires sur une population d'1,3 million d'habitants à avoir rejoint la Ligue de défense estonienne. Des civils qui sont régulièrement entraînés si le pire, une attaque de la Russie devait arriver. Leur lutte, c'est aujourd'hui jusqu'au cyberespace avec la création d'une unité de cyber-réservistes. C'est un reportage à Tallinn de Virginie Pironon.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Ligue de défense estonienne a enregistré 4000 nouvelles inscriptions, hommes et femmes confondus. Veste kaki, regard perçant, Némé Bruce, 66 ans, major à la retraite, a décidé de reprendre du service pour faire face à la Russie.
Nous ne nous faisons plus aucune illusion sur notre voisin. Et c'est pour ça que les gens veulent protéger leur pays, leur famille, notre indépendance, notre liberté. Et toutes ces idées que nous partageons avec les autres pays de l'Union européenne.
Barbe, poivre et sel, entrée militaire, le colonel Eero Rebo est à la tête de la Ligue de défense.
Nous n'avons pas peur, nous sommes préparés. Et on aimerait se préparer encore mieux. Et c'est pour ça que les gens nous rejoignent. C'est comme au football, la défense c'est un jeu collectif. Et pour jouer collectif, il faut s'entraîner ensemble. Il faut se préparer pour ne pas avoir peur. Parce que des personnes qui ont peur auront tendance à fuir. Mais celles qui seront bien préparées seront motivées et prêtes à riposter.
Des entraînements militaires réguliers, 2 fois par an environ, auquel participe Andres Lambert, 51 ans.
Oui, on se maintient en forme.
Cet ancien journaliste est officier de réserve et en charge de l'unité cyber au sein de la Ligue de défense. Il a également fondé en 2016 un site internet, Propastop, pour contrer la propagande du Kremlin.
Ils disent que l'Estonie est un pays faible et que nous n'avons pas envie de nous défendre. Mais en même temps, nous sommes suffisamment puissants pour pousser l'OTAN à agir contre la Russie. Donc c'est un peu paradoxal. Et bien sûr, les Russes d'Estonie sont discriminés parce que nous sommes des fascistes et nous sommes évidemment les vassaux des États-Unis.
En 9 ans de travail, les 30 bénévoles environ qui travaillent pour Propastop ont démenti des centaines de fausses informations, ont aidé au démantèlement de réseaux pro-russes. Ils ont même été pour cela la cible de cyberattaques. Une véritable guerre informationnelle, mais qui n'a rien de nouveau, rappelle Andres Lambert.
Nous devons nous rappeler que la Russie a répété des invasions, des génocides, une violence physique et mentale et des tentatives de destruction de ses voisins pendant des siècles. Ici, à la frontière russe, nous ne devons pas être naïfs ou aveugles comme a pu l'être le monde occidental après l'effondrement de l'Union soviétique. Je dirais que nous savons à quoi ressemble la propagande russe. Bien sûr, ici, nous avons une importante minorité russe, mais une large majorité d'entre eux est pro-estonienne aujourd'hui. Nous devons travailler sur les 20% d'entre eux qui gardent une ligne pro-russe et les intégrer mieux, mais ce n'est plus un gros problème.
Occupation par l'Allemagne nazie de 41 à 44, suivie par plus de 50 années d'occupation soviétique, il faut tout faire, conclut Andres Lambert, pour éviter que l'histoire ne se répète. Et plutôt qu'être en position défensive, ce spécialiste de cyberdéfense souhaiterait désormais opter pour une ligne beaucoup plus dure vis-à-vis de Moscou,
en organisant, pourquoi pas, des attaques ciblées sur certaines institutions russes.
Le reportage depuis Tallinn en Estonie, signé Virginie Pironon. La météo avec un samedi estival attendu demain. Un soleil franc est attendu sur le sud du pays avec des nuages poussés par le vent marin. Des rafales à 100 km/h sont même attendues sur le Pays Basque. Le ciel sera un peu plus voilé sur le nord en matinée avec quelques pluies fines attendues sur la Bretagne. Les températures minimales sont comprises entre 8 et 14 degrés en moyenne. L'après-midi, les maximales vont atteindre 24 à 27 degrés du nord au sud et jusqu'à 30 degrés sur l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia et Élise Le à la technique.